Et tout de suite, c'est Agora, le magazine de la rédaction, en partenariat avec Maxentre, présenté aujourd'hui par Sophie Deschamps et Frédéric Sabourin. Bonjour à tous.
Bonjour à tous, bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors, nous faisons un zoom aujourd'hui sur les 2 ans du Labo, la vitrine numérique d'Orléans, en compagnie de 2 de ses membres, Jérôme Richard, ancien chef de tribu, élu à la métropole et depuis 1 an conseiller spécial délégué au numérique à la métropole d'Orléans. Jérôme Richard, bonjour.
Bonjour.
Et puis Philippe Franco, vous êtes directeur de l'Industrie Lab, l'une des associations hébergées au Labo, une association pionnière. Et puis vous êtes, vous, depuis le début du projet du Labo. Bonjour Philippe Franco.
Bonjour.
Alors, on va effectivement revenir un petit peu sur l'historique de ce labo et puis voir où vous en êtes aujourd'hui et comment vous vous situez dans le numérique. On va donner quelques chiffres pour bien prendre la mesure de ce qu'est le labo à Orléans. Donc, c'est ce bâtiment ex-FAMAR. On ne peut pas le louper à la sortie du pont Joffre. C'est 14 000 mètres carrés de locaux. C'est énorme sur 6 niveaux. C'est 50 structures hébergées, c'est 350 labonautes, donc les entreprises hébergées chez vous, c'est 5400 visiteurs, plus, un peu plus même en 2 ans, c'est 122 embauches et enfin 55 conférences et 2 TEDx. Jérôme Richard, c'est une entreprise qui se porte bien, le labo?
Ah oui, tout à fait, c'est une belle réussite. En fait, on l'avait imaginé comme ça se produit. On a mis 2 ans à monter le projet, à faire les travaux. On a ouvert il y a 2 ans, effectivement, ensuite. On s'aperçoit aujourd'hui que la vision qu'on avait et le fait de fédérer un certain nombre d'entités, de personnes, d'écosystèmes a produit ses effets. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est beau. C'est beaucoup d'entreprises qui ont rejoint le labo. C'est, vous l'avez dit tout à l'heure, 350 personnes qui y travaillent au quotidien. C'est un vrai lieu d'innovation qui reste encore perfectible, puisqu'on a 2 ans. Là, on est en train de faire un peu notre introspection pour la suite. Mais voilà, ça marche très très bien, oui.
Le labo, ça abrite des start-up. Tous nos auditeurs ne sont pas forcément rompus à ce vocabulaire. On en entend parler, c'est dans nos oreilles depuis toujours. Est-ce qu'on peut juste faire un peu de pédagogie, rappeler c'est quoi une start-up? C'est un machin, c'est vraiment une entreprise. On peut gagner de l'argent avec une start-up. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi?
Alors, une start-up, et je laisserai aussi Philippe s'exprimer sur la question, une start-up, c'est avant tout une entreprise. Voilà, c'est faut commencer par là. Le côté start-up, c'est le côté un peu fun, un peu un peu wording à la mode, mais globalement ça reste une entreprise. Donc ça veut dire quoi une entreprise? Ça veut dire à un moment donné un entrepreneur, une équipe, ça veut dire un modèle, ça veut dire une idée et ça veut dire un modèle économique aussi à terme. Donc une start-up, elle s'exonère pas de toutes ces composantes. Ceci étant, une start-up, c'est aussi une entreprise qui souhaite porter une innovation et qui a un modèle en fait qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire qui va vite. Et donc il faut que cette start-up elle soit dans certaines conditions. Et ces conditions, c'est toutes les conditions de l'incubation finalement d'un incubateur tel que le Labo Orléans, le Labo Village by CA, c'est que en fait finalement on doit lui mettre les conditions pour qu'elle puisse se développer rapidement, qu'elle soit accompagnée, que les porteurs de projets qui ne sont pas forcément des entrepreneurs deviennent des entrepreneurs, et ça c'est pas toujours évident et c'est même rarement évident. Donc ça c'est un gros point important. Et puis ensuite effectivement faut les accompagner sur l'innovation, sur les capacités à innover, etc. Il faut aussi les accompagner sur la partie financière, donc il y a aussi des choses parce qu'il faut de l'argent. Ce qu'on fait en 3 ans de le faire en 10 ans, et ben il faut le financer en 3 ans au lieu de le faire en 10 ans. Voilà. Et donc en fait tout le monde n'est pas calibré pour le faire. Tout le monde n'est pas capable d'être entrepreneur dans tous les cas. Et qui plus est, quand on est en mode start-up, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut aller vite. Et donc, en fait, il faut réagir et construire un projet en très peu de temps. C'est ça, une start-up. C'est une entreprise avec un fort potentiel de croissance qui va devoir se développer très vite, qui va devoir monter en compétences beaucoup plus vite qu'une entreprise classique et avec les inconvénients et les avantages que ça peut engendrer. Et notamment, alors oui, on peut gagner de l'argent avec une start-up, mais c'est pas non plus l'Eldorado.
Se planter.
On peut aussi se planter. D'ailleurs, c'est le cas souvent. C'est le cas de la majorité des startups.
Comme hein, avec une entreprise.
Comme
normale.
Avec une entreprise. Je dirais qu'il y a plus de pérennité dans les entreprises classiques que dans les startups d'ailleurs, hein, parce que il y a toutes ces composantes que je vous ai évoquées, toutes ces difficultés rencontrées par des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs.
Alors justement, une startup, elle n'a pas vocation à rester ad vitam aeternam au labo, et c'est aussi justement le droit à l'échec que vous offrez à ces startups, même si on souhaite bien sûr qu'elles réussissent.
Oui, bien sûr. Alors déjà, la vocation d'un incubateur de start-up et d'un accélérateur, c'est pas forcément, c'est pas de porter au-delà du raisonnable un projet de start-up. Une start-up, elle doit émerger, elle doit trouver son modèle économique, elle doit devenir autonome, elle doit quitter le système d'incubation et elle doit vivre sa vie, comme toute entreprise. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça reste aussi une entreprise. Donc finalement, ce que cet écosystème met à disposition, ça doit être limité dans le temps. Tout simplement parce que si on veut aller vite, si on veut accélérer, etc., il faut aussi qu'il y ait une certaine forme de pression, de challenging sur les entreprises et qu'elles se disent, bon là j'ai la chance, l'opportunité d'être accompagné, d'avoir des financements, etc., d'être mis en relation avec un écosystème, il faut que je saisisse cette chance. Là-dessus, il faut qu'on travaille. Ce n'est pas toujours évident dans l'esprit de tout le monde, mais c'est important de le dire.
Alors vous, Philippe Franco, vous êtes le responsable de l'industrie Lab qui est au sein du labo depuis le départ avec 6 personnes, un centre de ressources techniques qui a été imaginé dès le début. Donc vous n'êtes pas une start-up.
Non, nous on n'est pas une start-up, on est une association qui met à disposition du matériel pour que justement les start-up résidentes du labo, mais pas que, toutes les entreprises en fait et tous les porteurs de projets plus généralement, puissent venir travailler et développer leurs produits à moindre coût. C'est-à-dire qu'on met du matériel très performant en libre service pour que les gens puissent venir fabriquer à l'aide d'imprimantes 3D, de machines commandes numériques, leurs propres produits, leurs propres innovations. Accompagné d'une équipe qui est composée d'ingénieurs en développement de produits, d'électroniciens, de personnes chargées de formation, puisqu'évidemment, il faut accompagner le besoin de monter en compétences des personnes qui viennent pour apprendre à utiliser ce matériel-là. Et on travaille sur ces 3 volets-là, en fait, de l'accompagnement technique, technologique, et aussi de la mise en relation avec toutes les instances du labo, c'est-à-dire qu'on a des projets qui arrivent chez nous, qu'on renvoie vers les instances type Technopole, qui vont les aider sur la structuration du projet, sur des recherches de financement, sur des dépôts de brevets, et justement permettre à une start-up de se développer correctement, comme le disait Jérôme. Juste pour préciser une chose, tout à l'heure vous parliez d'échec. Il faut bien comprendre que l'échec fait partie de la réussite d'une entreprise.
Mais on n'a pas cette culture-là en
France. Oui, d'accord, mais si on prend l'exemple de Steve Jobs, il s'est trompé avant de sortir l'iPhone. Et je pense que l'iPhone est un vrai succès. Donc il faut justement autoriser et permettre à tous ces gens-là qui sont dans l'innovation rapide de se tromper, d'aller sur des marchés, de pouvoir corriger. C'est ce qu'on appelle le mode itératif. Et l'outil IndustriLab a été conçu dans ce sens, c'est-à-dire permettre à des gens de faire plusieurs itérations de produits pour aller sur le marché. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec Necoé, en fait, qui est un cluster dans le design de service, qui eux vont être là vraiment pour détecter quels vont être les usages des produits. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne se pose plus la question de comment on utilise un téléphone, c'est devenu un objet. Mais avant que cet objet soit ainsi, c'est-à-dire qu'il y a eu des milliers d'heures d'études qui ont été faites pour dire, eh ben, on va ouvrir un mail, on va cliquer, on va avoir un écran tactile.
Ça va aussi servir d'appareil photo, qu'est-ce qu'on
exactement
en fait, on l'envoie sur le cloud.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça, c'est une vraie innovation et qu'on ne se pose plus la question si on doit l'utiliser, on l'utilise. Et nos enfants de 3 ans, quand ils attrapent une tablette, ils l'utilisent. Donc ça veut dire que ça a été super bien pensé.
C'est un peu tôt.
Voilà. Non, d'accord, alors ça c'est un autre débat.
Les enfants de 5 ans, 6 ans.
Voilà. Et pour pouvoir mettre les gens dans de bonnes conditions, il faut qu'on soit capable de leur permettre d'itérer. Et si on leur demande à chaque itération 100 000 euros, ce n'est pas possible. Parce qu'une start-up n'a pas forcément toujours les moyens de ses ambitions au départ. Donc on est là pour prouver qu'il y a un marché. 2, que la technologie est à maturité et qu'on va être capable de produire. Et 3, qu'on va être capable de répondre aux attentes du marché. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les phases maquettes, des phases prototypes, qui vont permettre en fait de valider tous ces usages. Et c'est fondamental de permettre ça, et c'est fondamental d'accompagner toutes ces étapes-là. Et c'est ce que disait Jérôme, en fait, on va faire grandir l'entreprise en fonction de l'apprentissage. Moi, je peux avoir une très bonne idée et on va me qualifier de start-upper innovant. Par contre, je n'ai jamais vendu un produit. Et c'est quand je vais le mettre sur le marché que je vais avoir les problèmes. Et c'est là qu'il va falloir corriger. Et si on investit tout son capital ou toutes ses ressources financières ou même humaines sur ces phases de pré-développement, bah ça veut dire que demain, on est mort parce qu'il faudra réagir. Et donc, c'est comme ça qu'on a conçu bien plus que d'un outil technologique. C'est un outil itératif de production. et on amène les gens à itérer facilement et en fonction des moyens financiers qu'ils ont, on va aller de plus en plus loin vers un produit qui va être proche de celui fini. Et pour ce faire, on va chercher aussi une composante qui est primordiale, ce sont les industriels locaux. C'est-à-dire que tout ça, ça se fait en partenariat et pas en concurrence. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas faire des millions de pièces, ce n'est pas mon métier. Par contre, mon objectif, c'est de mettre sur le marché des produits qui vont être des best-sellers et qui vont pouvoir se vendre à des milliers d'exemplaires. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir des industriels qui vont, eux, spécifier les produits, préparer en fait l'avenir industriel de ces entreprises pour être capable en fait de redynamiser ici l'économie, c'est-à-dire on incube des projets, on les fait sortir, mais on travaille avec du partenaire industriel local. De façon à ce que derrière, local, ça peut être national, hein, ça peut être européen, je sais pas que dans le Loiret que ça se passe. Faut aller chercher aussi les bonnes compétences pour les projets. Mais l'idée vraiment, c'est de dynamiser tout un écosystème et montrer que en rentrant un peu d'argent au départ, on peut faire émerger des idées, les structurer et développer vraiment du business. Mais pour tout le monde.
RCF. La joie se partage.
Vous écoutez Agora sur RCF Loire et en partenariat avec Maxentre et nous parlons aujourd'hui des 2 ans du Labo en compagnie de Jérôme Richard, ancien chef de tribu du Labo et conseiller spécial délégué au numérique à la métropole et Philippe Franco, directeur de l'industrie Lab. Alors justement, Jérôme Richard, quand on parle chef de tribu, ça veut dire que finalement vous étiez... Alors il y a toujours un chef de tribu, j'imagine, au Labo.
Alors il y a une chef de tribu...
C'est une femme.
Voilà, qui s'appelle Julie Richard, qui n'a rien à voir familialement avec moi. Il se trouve, voilà, c'est une homonyme. Oui, effectivement, le chef de tribu et la tribu, en fait, est l'instance représentative des entrepreneurs qui vivent au labo et qui ont aussi leur mot à dire dans ce qui se passe au labo. Voilà. Et donc, c'est une gouvernance un peu particulière qui permet de se réunir, de fixer un peu les objectifs, de voir ce qu'on voudrait voir dans le labo, les services qu'on voudrait développer, etc., de façon à ce que la vie au labo se passe bien.
C'est une sorte de gouvernance collective, pour employer un mot un peu à la mode ?
Oui, c'est ça, c'est absolument ça. C'est une gouvernance collective d'entrepreneurs qui se font les porte-parole, finalement, de l'ensemble des entrepreneurs du labo.
Ça veut dire aussi que les startups, elles ont des liens entre elles. Chacun n'est pas dans son coin à développer son projet. Il y a un moment, il y a des liens, des coups de pouce, de l'aide.
Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on a voulu initialement, c'est que les gens se parlent, se rencontrent. Et en fait, on parlait tout à l'heure d'entreprises jeunes et moins jeunes. En fait, on a aussi ce melting pot d'entrepreneurs un peu plus chevronnés qui sont des innovateurs aussi. Et puis, on a des jeunes qui arrivent avec une idée, etc. Et donc, ce mélange en fait des expériences, des savoir-faire, ne pas reproduire les mêmes erreurs, enfin voilà, aller plus vite et bénéficier d'un réseau, on essaie de le faire vivre au sein du labo. Alors ça se passe de façon souvent ça se passe de façon informelle à la machine à café, c'est assez marrant, mais finalement ces lieux communs dans lesquels on va se retrouver. Alors il y a vraiment des temps dans la journée, le café à 10h, le midi où on déjeune, vers 16h, et les gens se retrouvent, donc ça joue au baby, ça joue au ping-pong, et ça c'est le côté un petit peu fun et visible de l'extérieur, mais en réalité ça parle.
Ça travaille,
et en fait quand on ne serait-ce que la machine à café, on arrive à travailler parce qu'en fait on s'échange des informations qui ne seraient pas échangées si on était dans un mode un peu plus classique.
Alors tout à l'heure on l'a évoqué, on a parlé un peu de moyens, de financement. Une banque, il faut dire son nom, le Crédit Agricole, soutient, aide, comment on peut dire, toute cette industrie, toutes ces startups émergentes avec ce qu'on appelle le Labo Village by CA, donc CA comme Crédit Agricole. Qu'est-ce que c'est, ça sert à quoi et pourquoi d'abord le Crédit Agricole s'est intéressé à ça d'un seul coup et à quoi ça peut bien servir?
Alors, le labo Village by CA, effectivement, le labo fait partie du réseau Village by CA. Le Crédit Agricole a développé au niveau national un réseau d'incubateurs qui commence à s'étoffer un petit peu sur tout le territoire et qui a pour vocation de faire de l'incubation, de l'accélération de start-up et de bénéficier du réseau. Et notamment aussi, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'international. Le Crédit Agricole est une banque de territoire, de proximité, qui avait envie de soutenir l'innovation sur notre territoire, mais sur d'autres territoires, et on avait ce projet labo. Et en fait, on s'est rapproché à un moment donné en se disant, mais pourquoi on le ferait pas ensemble? Voilà, c'est ça le pitch initial. Et puis l'intelligence collective entre les dirigeants de notre caisse régionale et puis de la métropole. Le côté international, je reviens dessus, c'est très important. En fait, nos startups, demain, leur marché, il sera pas national. Déjà, c'est compliqué, le marché national, souvent, parce qu'on a un certain nombre de normes, de contraintes. Enfin, c'est très compliqué d'innover en France, quand même, hein, faut le dire. Et le marché de nos startups, souvent, l'innovation, elle va au-delà. Au-delà de nos frontières. Ça, on le mesure vraiment à chaque fois qu'on va, par exemple, sur le CES de Las Vegas, quand on va au Web Summit à Lisbonne. On se rend compte que là, c'est là que ça se passe. Donc, en fait, n'ayant pas, nous, ces capacités à emmener nos startups à l'international, on va aussi se servir d'une banque qui est une plus grande banque internationale et qui va nous permettre d'aller trouver des relais à l'étranger, aux États-Unis, au Japon, etc., pour emmener nos startups. Et c'est on n'en est pas encore là parce qu'on n'a pas les startups, la maturité des startups suffisante pour le moment, mais on a bien ça en ligne de mire et on s'appuiera à ce moment-là aussi sur le Créer École, au-delà du local, pour emmener nos startups à l'international, leur faire faire du réseau aussi à l'international, organiser des rendez-vous, leur faire rencontrer des gens. Et ça, c'est hyper important. Donc, de ce point de vue-là, ce partenariat, il est assez formidable avec le Créer École.
Ça veut dire à l'avenir participer à des salons spécialisés dans l'innovation et dans le numérique en tant que labo?
Alors c'est déjà le cas. On participe tous les ans au Salon des entrepreneurs. On participe alors en tant que labo et en tant qu'écosystème French Tech, parce que là on va élargir un peu le débat, mais finalement c'est une dynamique régionale, hein, dans laquelle on s'inscrit. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner des startups au Web Summit, j'en parlais tout à l'heure, donc d'accompagner des startups à Las Vegas, au CES, pour justement leur faire toucher du doigt où est leur marché à terme. Ça donne aussi de la perspective, ça donne aussi de l'ambition, ça donne aussi de l'accélération et de l'envie. Et donc oui, on a cette vocation à l'international. Et je dirais au-delà de ça, on a aussi le rayonnement de notre métropole, qui est important à l'international. Et donc tout ça participe de cette dynamique.
L'accès au statut de métropole, ça a été un coup de fouet également pour le labo ?
Oui, absolument. D'ailleurs, il m'arrive assez souvent d'être sollicité, moi, en tant que conseiller spécial au numérique, pour aller présenter, parler de ce que l'on a réussi en très peu de temps. Hein. Ce labo, on l'a créé en 2 ans, il est sorti de terre. Hein. On a su mettre en mouvement tout un écosystème, que ça soit la recherche, que ça soit le monde académique, que ça soit les entreprises, que ça soit les collectivités. Et c'est pas toujours évident d'emmener les collectivités à cette marche forcée dans ce type de projet. Et donc oui, ça a été un coup de fouet pour faire émerger notre métropole en tant que métropole innovante. Et c'est pas fini, puisque là on travaille aussi au niveau de la métropole sur la métropole intelligente, sur l'inclusion numérique, sur un certain nombre de choses dont on va vous parler très très bientôt. Et tout ça a créé une vraie dynamique. Et en fait, on emmène tout le monde dans cette histoire. C'est un vrai accélérateur pour nous.
Mais pour sortir du lot, il faut avoir des spécificités et le labo a lesquelles ou veut développer lesquelles ?
Alors initialement, on n'avait pas forcément prévu d'avoir des spécificités. Mais alors on reste finalement un incubateur de start-up et un écosystème généraliste. Mais se sont dégagées un certain nombre de choses, et notamment 3 choses, et 3 filières, 3 verticales, 3 axes. On a l'agriculture, à travers le projet AgriTech Valley, qui est un incubateur spin-off du labo, qui va permettre d'innover dans le monde de l'agriculture avec des serres connectées et tout un écosystème de recherche autour.
C'est la proximité de la Beauce qui veut ça?
Alors c'est
on a une région au-delà de la proximité.
Alors oui, absolument. Au-delà de la proximité, au-delà de la proximité de la Beauce, on est quand même, ne serait-ce que la métropole, une région agricole. Enfin, faut pas l'oublier. On a des maraîchers, on a tout un tas
des
céréaliers, on a tout un écosystème en fait orléanais en proximité. Notamment toutes les communes du Val là produisent. Et donc c'est une région agricole.
En viticulture,
ça commence aussi à venir. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc l'agriculture, c'est vraiment un domaine très important. Effectivement, il y a aussi la proximité de la Beauce. Ensuite, on a signé l'année dernière une convention avec la Fédération française de services à la personne. Et en fait, le labo a été identifié au national comme l'incubateur qui va porter l'innovation des services à la personne au niveau national. Ça, c'est super important. C'est important aussi pour la fédération, bien sûr. C'est important pour la métropole d'être identifié, mais c'est aussi important pour les startups du labo qui vont pouvoir expérimenter, travailler sur des vrais sujets avec des territoires d'expérimentation et des moyens d'expérimentation.
Quoi, par exemple ?
Alors, après, on a des services qui se développent, par exemple, sur le maintien à domicile des personnes âgées. Voilà.
pas seulement avec des objets connectés, parce que c'est la chose à laquelle on penserait
alors,
directement.
Alors, l'innovation, elle
n'est pas seulement ça.
Non, l'innovation, elle n'est pas que technologique. Mm-hmm. Il se trouve qu'on a quand même une spécificité numérique sur notre labo. Donc, il y a des innovations qui sont notamment, je pense, j'ai dans l'idée une boîte qui s'appelle Janasense, là, qui travaille justement sur le maintien à domicile des personnes vulnérables, donc les personnes âgées, etc., et de façon non intrusive. Donc, voilà, arriver à définir leur comportement dans leur vie au quotidien pour déceler à un moment donné des comportements qui vont être déviants et qui vont permettre de dire il y a un problème. Voilà, et voilà, je ne vais pas plus loin, mais globalement, c'est ce type de service qu'on cherche à développer.
Donc, agriculture, service à la personne, et plus inattendu des liens avec l'armée de l'air qui vient travailler chez vous. Expliquez-nous comment ça marche.
Et oui,
c'est le troisième axe.
Le pôle Laurias, en fait, ça aussi, c'est le troisième axe. Et c'est pareil, ça a été signé il y a quelques mois avec l'armée de l'air.
Et en fait, et avec la base aérienne de Brissy.
Alors avec la base aérienne de Brissy qui était à la manœuvre de façon très forte avec la métropole. Et en fait, globalement, ce qui se passe, c'est que on a des innovations extraordinaires au sein de l'armée. On a des innovateurs, on a des ingénieurs, on a des gens formidables. Et il y a des besoins très concrets qui sont pourvus par tous ces gens-là. Et les besoins, c'est par exemple la projection de forces spéciales. Mais quand on dit projection de forces spéciales, ça veut dire surveillance, ça veut dire satellite, ça veut dire vidéo, ça veut dire drone, ça veut dire plein de choses. Et tous ces trucs-là. Eh ben, on peut les transposer au civil. On peut les amener en tant qu'innovation dans la société civile. Et c'est tout l'objectif de ce partenariat, c'est de continuer pour le Laurias dans une zone défense à créer des innovations et de faire sortir ces innovations pour innover sur l'aspect civil. Et ça va, par exemple, la surveillance de manifestations par drone avec des systèmes automatiques qui permettent de compter, de surveiller, de détecter des choses un petit peu déviantes par rapport à l'habitude. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Et donc, ça fait partie des spécificités.
Et inversement aussi, oui, c'est Philippe prendre des Franco. Sociétés du civil pour rendre des services innovants vers les armées, en fait.
Oui, voilà,
c'est-à-dire utiliser des technologies qui ont été développées par des start-up pour d'autres usages à la base qui peuvent être récupérés par des forces spéciales, en fait, et donc d'intégrer de nouveaux marchés pour ces start-up dans les mondes militaires, en fait. Et tout ça encadré en manière confidentialité,
oui,
évidemment,
voilà,
avec
dire,
un lieu dédié, avec
y a
une
un lieu confidentiel, enfin,
exactement.
Secret défense au sein même du labo, parce que toutes ces choses-là, d'habitude, l'armée est quand même très regardante sur ce qu'elle laisse.
Il y a une partie des tâches dédiées à ce Laurias, en fait, avec des startups qui travaillent, avec des salles de réunion, des lieux particuliers pour pouvoir recueillir et pouvoir échanger librement, mais de manière confidentielle sur tous ces sujets-là.
Et on peut supposer que ça concerne aussi d'autres startups qui travaillent sur des produits qu'elles veulent, dont elles veulent garder également l'avance technologique.
C'est là que je voulais rajouter, c'est que au final tout ça sert à innover, bien sûr, ça sert à faire sortir de l'innovation dans le public, mais ça sert aussi à faire travailler des startups. C'est-à-dire qu'en fait, nos startups, elles ont besoin de déboucher, elles ont besoin de marcher, elles ont besoin d'expérimenter, elles ont besoin de moyens pour expérimenter. Parce que souvent, on fait de l'expérimentation par ses propres moyens sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, dans des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément. Et là, justement, ça va apporter des vrais sujets d'expérimentation, des vrais moyens d'expérimentation à nos startups et nos startups locales. Il y a d'ailleurs plusieurs startups locales qui font partie du pôle Laurias, qui ont été identifiées dans ce pôle pour pouvoir travailler avec eux sur de l'objet connecté, sur du drone, sur un certain nombre de choses. Sur la data visualisation, sur plein de choses. Et donc voilà, c'est cette synergie qu'il faut qu'on encourage, parce que c'est ce qui va faire que l'expérimentation d'aujourd'hui va donner les produits de demain, va permettre de transposer cette expérimentation sur un passage à l'échelle demain. Et donc c'est très très important pour nos startups. Et donc en fait, c'est pas simplement créer un incubateur pour nous qui est important, c'est de créer en fait l'environnement et tout ce qui va avec pour pouvoir favoriser l'émergence de l'innovation et créer au final de la richesse, des emplois, des entreprises et irriguer l'ensemble de notre territoire.
On parle du transfert technologique. Frédéric Sabouret, il nous reste
oui,
deux minutes.
Juste une minute, mais peut-être pour parler aussi du labo qui n'est pas désincarné par rapport au monde académique et au monde de la recherche. Philippe Franco, on l'évoquait en préparant cette émission, le labo s'est construit avec ça, c'est-à-dire tout ce monde académique et de la recherche qu'on trouve ici même à Orléans. C'est mm-hmm. pas arrivé de la planète Mars, boum, c'est tombé là. Racontez-nous comment ça s'est passé et quels sont les liens avec ce monde académique et de la recherche.
On a forcément des liens avec l'Académie de la Recherche, on accueille beaucoup d'étudiants et on fait beaucoup d'événements au sein du labo. Il y a un exemple, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais qui est pour moi très parlant, c'est L'utilisation d'une recherche qui a été faite par des labos au sein de l'université qui a conduit à faire une pile à combustible, miniaturiser une pile à combustible qui est aujourd'hui, qui a été développée avec le Crésit aussi, un service qui est au sein du labo, qui sont nos voisins, une plateforme encore technologique spécialisée dans l'électronique et avec vraiment un niveau d'expertise qui ont pu en fait permettre à Otis, une société de la région, de faire une première
mondiale. Des ascenseurs.
Voilà, de faire des ascenseurs autonomes en énergie, puisque c'est la pile à combustible du projet SAPAC, c'est l'origine de ce projet-là, en fait, de recherche, qui a permis, en fait, de créer une pile qui est aujourd'hui utilisée dans le monde des ascenseurs. Et ça, c'est vraiment une innovation mondiale, une première mondiale. Et c'est tous ces liens, en fait, qu'on veut créer, aller chercher des innovations qui sont vraiment embryonnaires, vraiment qui nécessitent d'aller sur les marchés et de créer les bons vecteurs qui vont permettre en fait de le financer, mais rendre aussi possible la réalisation pour, encore une fois ce que je disais tout à l'heure, tester sur un marché, voir s'il y a vraiment un usage et pouvoir ensuite développer de l'industriel. Voilà.
Donc ça veut dire créer des passerelles entre également la recherche et après la concrétisation de ce que les chercheurs trouvent.
Oui, tout à fait. En fait, nous, on appelle vraiment de nos voeux le transfert technologique entre la recherche publique et le monde économique. Hein. On a des laboratoires formidables, on a des chercheurs formidables. Ils innovent énormément, ils publient énormément. Et dans nos plus beaux rêves, on souhaiterait que ces innovations puissent sortir de façon fluide dans le monde public.
Eh bien, merci beaucoup Jérôme Richard et Philippe Franco d'avoir entrouvert pour nous les portes du labo. Et puis, ben, on se reverra prochainement pour faire le point dans quelques mois.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup Frédéric Sabourin d'avoir co-animé cette émission. Une émission à retrouver bien sûr sur Internet en podcast, sur rcf.fr ou sur le site de Maxentre en tapant maxentre.fr. Bonne journée, bon appétit à tous.